France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Coup de froid sur l'apprentissage, le dispositif fonctionne pour les jeunes, mais il coûte cher, alors les aides à l'embauche vont se réduire à partir du 1er janvier. Mais le ministère du Travail promet de limiter la casse, nos informations dans un instant. Nous serons à Mayotte également dans les prochaines minutes. Le Premier ministre François Bayrou est depuis ce matin dans l'archipel ravagé par le cyclone Chido. Les rumeurs de milliers de morts ne sont pas fondées, dit-il. Nous l'écouterons. Nous verrons que trouver un médecin est plus que jamais un casse-tête pendant cette période des fêtes.
On est allé aux urgences mener à la petite. Ils nous disent de venir ici et là ils nous disent de repartir parce qu'il n'y a pas de place. Elle fait une allergie là et il n'y a personne. Notre docteur il n'est pas là. Il n'y a personne aujourd'hui.
Reportage dans le Vaucluse. Les proches de l'écrivain Boualem Sansal, toujours incarcéré en Algérie, ses proches s'alarment pour son état de santé. Nous les écouterons. Et puis la Chine. Bonjour Sébastien Berriot.
Oui, bonjour.
Et le sort d'un jeune adolescent de 13 ans qui affole l'opinion.
Oui, un adolescent condamné à la prison à vie pour le meurtre de l'un de ses camarades. La Chine ouvre le débat sur la délinquance juvénile, phénomène nouveau.
A tout de suite en direct de Pékin. À partir de 13h30, la navigatrice Violette d'Orange est notre invitée exceptionnelle. Elle va nous répondre depuis son bateau dans le sud de l'océan Pacifique, loin de toute terre. Elle qui est engagée, vous le savez, dans le vent des globes et que l'on retrouve chaque semaine dans ce 13-14. Elle va répondre aux questions que vous lui avez envoyées, très nombreux, comme Robinson.
Bonjour, je m'appelle Robinson, j'ai 9 ans et je voudrais savoir quelle a été votre plus grande peur pendant le vent des globes. Merci.
Bonjour, Aurore. J'ai eu un peu peur au Cap de Bonne-Espérance. Mon bateau s'est couché sur l'eau et en fait, quand j'ai entendu le boom, j'ai cru que c'était le mât qui était tombé et j'ai eu très très peur.
Violette d'Orange avec nous à partir de 13h30 sur le vent des globes où le tenant du titre, Yannick Bestaven, a jeté l'éponge ce matin. 13h50, c'est la France. Comment se souhaite-t-on la bonne année selon les régions? Quelle est la région, par exemple, on se souhaite un bon boudin? Mathieu Avanzi, notre linguiste, sera là. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. Jeanne Masse, Daniel Balavoine et Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
437 000 apprentis en France en 2018, plus d'un million il y a un an, fin 2023. Nos entreprises, longtemps fâchées avec l'alternance, s'y sont mis, encouragées, il est vrai, par les aides d'État, 6 000 euros par apprenti, quel que soit le diplôme, et les effectifs de l'employeur. Mais ces mesures favorables aux jeunes ont vécu, bonjour Mathilde Dehimy.
Bonjour Jérôme.
Cette aide à l'embauche devait s'arrêter au 31 décembre pour les entreprises de 250 salariés et plus, et pour tous les apprentis post-bac. Et selon vos informations, le gouvernement va tenter de trouver une solution.
Oui, encore hier soir, une réunion se tenait au ministère du Travail pour dégager un arbitrage. L'enjeu est important pour les entreprises et notamment les plus grandes qui ont beaucoup à perdre. C'est l'une des conséquences de l'absence de budget. Le dispositif d'aide à l'apprentissage s'arrête donc au 31 décembre. Et s'il n'est pas reconduit, l'ancien modèle nettement moins favorable aurait donc dû s'appliquer. Mais de source patronale, un entre-deux a été trouvé ces dernières heures. Ce ne serait plus comme cette année, une aide maximum de 6 000 euros pour tous, mais pour 2025, 5 000 euros pour les entreprises de moins de 250 salariés et 2 000 euros pour celles au-dessus, et ce, quel que soit le niveau de diplôme de l'apprenti. Gardons pour l'instant le conditionnel, Jérôme, le temps des derniers arbitrages prévus d'après le ministère en fin de journée ou demain. Mais ces aides à l'apprentissage ont fait l'objet d'âpres débats sur le budget. Des parlementaires voulaient les réduire au motif que les grandes entreprises les utilisaient pour embaucher des apprentis surdiplômés. L'ancien gouvernement Barnier souhaitait lui réduire l'enveloppe dédiée à l'apprentissage avec une économie de plus de 600 millions d'euros à la clé. Et selon l'un de mes interlocuteurs patronaux, on serait désormais plutôt sur une économie de 400 millions d'euros.
Information signée Mathilde Dehimy. Les entreprises de Mayotte, elles, ainsi que leurs habitants, évidemment attentifs depuis ce matin, aux promesses du Premier ministre François Bayrou, en déplacement pour une journée donc dans l'archipel de l'océan Indien, deux semaines après le passage du cyclone Chido qui a dévasté ce département déjà le plus pauvre de France. Nous sommes à près de 8000 km de Paris. François Bayrou, accompagné de plusieurs ministres, dont celui des Outre-mer, Manuel Valls, et de celle de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, il promet un plan pour la reconstruction sous 2 ans, dit-il. François Bayrou qui précisera dans quelques heures ce qu'il compte mettre justement dans ce plan. Promesse donc, mais aussi écoute. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Marie, vous êtes sur place à Mayotte, vous suivez cette visite pour Inter, même si le Premier ministre semble un peu hésitant à aller au-devant des habitants.
Oui, jusqu'ici, le Premier ministre n'a eu presque aucun échange direct avec des Mahorais croisés dans la rue. Mais parce que le déplacement est si minuté, justifie Matignon. Tout à l'heure, par exemple, sur une place de Mamoudzou, François Bayrou a rendu un hommage au capitaine de gendarmerie Florian Monnier, venu en renfort à Mayotte et décédé en service le 20 décembre. Tout autour de la place, des dizaines de Mahorais se sont massés pour écouter François Bayrou. « J'ai cru qu'il était là pour faire des annonces », glisse un jeune homme. À l'issue de la cérémonie, François Bayrou s'avance de lui-même, serre quelques mains, puis recule pour faire coucou de loin. Déception de certains habitants ici présents, comme cette dame qui souhaitait lui parler de son fils malade.
« Mon maman, il devrait venir auprès de la population qui souffre. Mais il passe là, on le voit passer sans que nous, on puisse dire ce qu'on ressent. Parce que j'ai couru pour le rattraper là et il est parti. »
Ou encore ce Mahorais qui lui espère davantage que des saluts de la main, dit-il. Il attend toujours les annonces de fond.
Mais c'est pas ce qu'on attend. On attend qu'il fasse quelque chose pour Mayotte. Les bonjours, les merci, on en a dit plein. Pour l'instant, on n'a pas entendu les annonces. Un plan qui construira Mayotte, c'est tout. Mais pas les bonjours, au revoir. Non, 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 c'est là, on en a vu les visites passer ici. Manuel Valls, Isabelle Borne, et ils sont tous passés ici.
Et justement, François Bayrou a promis du concret, du réel, un plan qu'il doit présenter tout à l'heure, 18h30, heure de Paris. Il a visité aujourd'hui également un collège et une usine de dessalement.
Et puis il y a, Marie, ce sujet qui fait débat, c'est celui du bilan humain du cyclone. On se souvient que quelques heures après son passage, le préfet de Mayotte avait dit, je le cite, « certainement plusieurs centaines de morts sur l'archipel, peut-être même quelques milliers ». Bon, pour l'instant, on en est à 39 morts officiellement et François Bayrou s'est montré très prudent ce matin.
Oui, ce matin encore, depuis l'hôpital de campagne qu'il visitait, François Bayrou a balayé les rumeurs, dit-il, de charniers et d'un bilan qui se compterait en plusieurs milliers de morts.
Les rumeurs de milliers de morts ne sont pas fondées. Alors que quelques dizaines ou quelques deux centaines, c'est dans ces zones-là que nous disent les observateurs de terrain, on se trouve. Je n'ai pas renoncé à dresser un bilan définitif et d'ailleurs, nous ne renonçons à rien.
Je n'ai pas renoncé, dit-il. Plusieurs élus mahorais continuent d'affirmer que certaines zones, dans la forêt notamment, n'ont toujours pas été visitées par les secours car trop inaccessibles. Je ne crois pas qu'un bilan fiable, définitif, puisse un jour être établi, nous disait hier un membre de la délégation du Premier ministre, car on ne sait pas précisément combien de personnes vivent dans ces bidonvilles.
Merci Marie Mollet, avec les moyens techniques de Christophe Papon. François Bayrou et son équipe vont donc rester à Mamoudzou, essentiellement aujourd'hui la ville préfecture. Pas de déplacement dans les quartiers les plus précaires au programme. Bonjour Agathe Mahué.
Bonjour Jérôme.
Vous aussi vous trouvez à Mamoudzou, à Mayotte. Vous avez pu échanger ce matin avec des Mahorais. Que pensent-ils finalement de ce déplacement, Agathe ?
Ils sont partagés entre l'espoir de vraies mesures et l'idée que cette visite ne changera pas grand-chose. Saïd aurait voulu que le Premier ministre aille au-delà de Mamoudzou.
Nous qui sommes dans les quartiers chauds, les bidonvilles, nous avons vu que ce cyclone a été meurtrier. Pendant 2 ans, les Mahorais vont manquer de nourriture. Il va y avoir une flambée de violence et il va y avoir aussi une insécurité grandissante. Aujourd'hui, la situation est pratiquement calme. Mais c'est un calme avant la tempête.
Cette dame aussi craint que le Premier ministre ne se concentre que sur l'urgence, l'accès à l'eau et les conséquences du cyclone.
Mais nous, à Mayotte, nous, on souffre d'autres choses aussi. Nous, ce qu'on attend, on veut être libre à Mayotte. On veut vivre entre nous, nous les Mahorais, parce qu'on en a marre. Voilà, vous avez compris, on en a marre. Je ne vais pas exagérer, on en a marre.
Des Comoriens ?
Je ne dis pas, on en a marre. Nous, les Mahorais, on en a marre. On veut vivre en paix.
François Bayrou lui a déjà répondu indirectement tout à l'heure. Quiconque prétendrait qu'il n'y a pas de problème d'immigration brûlant à Mayotte est irresponsable. Sur ce sujet comme sur les autres, des annonces concrètes sont maintenant attendues dans l'après-midi.
Voilà pour les annonces de ce plan Mayotte debout promis par le Premier ministre François Bayrou. Merci Agathe Mahué en direct de Mayotte avec les moyens techniques cette fois de Gilles Gallinaro. L'actuel ministre de la Santé Yannick Neuder participe également à cette visite en ce moment à Mayotte. Deux de ses prédécesseurs à ce poste, Agnès Buzyn et Olivier Véran, ont appris ce matin que l'enquête portant sur leur gestion de l'épidémie de Covid était clôturée sans mise en examen. La Cour de justice de la République estime donc qu'il n'y a pas lieu de les poursuivre. Cela vaut aussi pour le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe. L'information judiciaire est ouverte depuis juillet 2020 pour mise en danger de la vie d'autrui, notamment suite à des dépôts de plaintes au sujet, par exemple, du manque d'équipement de protection pour les soignants pendant la pandémie. Cette enquête devrait donc se conclure par un non-lieu. Mais pour tous ceux qui sont malades pendant ces fêtes, la préoccupation, c'est d'obtenir un rendez-vous chez le médecin. C'est déjà épineux en temps normal dans beaucoup de départements. Ça l'est encore plus, par exemple, dans le Vaucluse ou sur Doctolib. Aucun créneau dans les trois jours chez un généraliste n'est disponible. Alors devant le centre médical sans rendez-vous Urgence Med à Avignon, beaucoup de patients se retrouvent sans solution, Shannon Marini.
Comme ces deux femmes, une enfant de 1 an dans les bras, à peine la porte franchie, elles ressortent.
On est allé aux urgences mener à la petite, ils nous disent de venir ici, et là ils nous disent de repartir parce qu'il n'y a pas de place. Elle fait une allergie là, et il n'y a personne. Notre docteur, il n'est pas là, il n'y a personne aujourd'hui.
Il y a déjà 50 personnes qui attendent. Et donc, on ne sait pas jusqu'à combien de temps.
Jean-Baptiste non plus ne pourra pas voir le médecin. Le centre n'est ouvert que depuis 1h30, mais la salle d'attente est déjà pleine. Quand on entre, il faut prendre un ticket et il y a un mot sur la machine. Nous ne pouvons plus prendre de patients pour la journée.
Ça fait quand même 10 jours que je suis malade. Je suis allé aux urgences et puis au bout de 2h30, on m'a dit que je n'étais pas urgent, évidemment, par rapport à une vraie urgence d'accident de la route ou autre chose.
Philippe est arrivé avant l'ouverture. Il y avait déjà une vingtaine de personnes devant la porte.
J'ai la grippe et c'est en train de se transformer en bronchite.
Il a un médecin traitant.
Mais là, il est en vacances une semaine. C'est difficile de prendre rendez-vous sur Doctolib, c'est 3 semaines à moi. Hein.
Si vous êtes dans cette situation, que votre médecin traitant ne peut pas vous voir, appelez le 15 qui pourra vous diriger vers une maison médicale de garde ou bien qui vous donnera un rendez-vous avec un médecin dans les 48 heures.
Reportage France Bleu Vaucluse. En Haute-Savoie, aujourd'hui en vallée de l'Arve, attention à la pollution atmosphérique. Le niveau de vigilance rouge aux particules fines est déclenché. Et parmi les mesures qui sont entrées en vigueur ces dernières heures, l'interdiction d'utiliser des chauffages individuels au bois, chauffage d'appoint ou d'agrément. Le chauffage au bois est, on le rappelle, une cause importante de la pollution de l'air. Et ce que vient de mettre en lumière une étude de l'École normale supérieure, bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
C'est que quand on les accompagne, les particuliers sont tout prêts à s'en détourner.
Oui, le défi, hein, c'est que le feu de cheminée a une image très positive. On a envie de se blottir au coin du feu en cette période de fête de fin d'année. Alors, comment faire passer le message que la fumée de bois produit beaucoup plus de particules fines que la fumée de cigarette? Et comment inciter les utilisateurs à faire moins de flambées ou à acheter un poêle à bois plus performant? Pour cela, les chercheurs du département d'études cognitives de l'École normale supérieure ont mené une expérience auprès de 300 volontaires. Un premier groupe a reçu une plaquette d'information générale pour expliquer les dangers des particules fines émises par le chauffage au bois. Un deuxième groupe, lui, a reçu cette plaquette d'information, mais en plus, on a installé des capteurs chez eux pour qu'ils visualisent les niveaux de pollution réels auxquels ils sont exposés. D'après vous, Jérôme, quelle méthode a été la plus efficace ?
La seconde.
Et voilà, c'est celle avec les capteurs. Seul le deuxième groupe a baissé ses émissions de particules fines, 20% de baisse en moyenne. Conclusion, eh bien, cette expérience montre que sensibiliser tout seul, ça ne fonctionne pas toujours. C'est l'intervention ciblée et personnalisée, les capteurs donc, qui a incité les gens à changer de comportement.
Merci Sandy Dauphin. J'ajoute que ce matin, l'Organisation Météorologique Mondiale exhorte le monde à abandonner, je cite, le chemin vers la ruine, rappelant que le changement climatique a déclenché cette année des conditions météorologiques extrêmes et de chaleur record. Là, c'est une question qui se pose aux médecins français. Pour quelle raison la France est-elle l'un des pays où l'incidence du cancer du pancréas progresse le plus, au point que notre pays est le 4e le plus touché de la planète en valeur absolue? Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Les travaux d'une équipe française ont établi pour la première fois dans l'Hexagone une association pas un lien, une association entre le risque de contracter cette maladie et l'utilisation locale des pesticides.
Oui, les mots sont importants en effet. Partant de deux constats, l'augmentation, vous l'avez dit, du nombre de cancers du pancréas, de l'ordre de 2% chaque année en France, et du fait que notre pays est de loin le plus gros consommateur de pesticides, cette équipe s'est interrogée, c'est légitime, sur le lien potentiel. Les pesticides, nous y sommes tous exposés, dans l'air que nous respirons, dans l'eau que nous buvons, dans les fruits et légumes que nous consommons. Ces médecins et épidémiologistes ont croisé deux bases de données, celle de la répartition géographique des malades du cancer du pancréas entre 2011 et 2021 et celle de l'utilisation de 9 pesticides, dont le glyphosate. Il compte pour la moitié des ventes dans notre pays. Sur la décennie, l'exposition de la population a donc été calculée. Résultat, 3 zones se détachent, la région parisienne, le centre de la France et le pourtour méditerranéen. Même en tenant compte d'autres facteurs comme le tabagisme, l'étude montre un risque accru de cancer associé à la quantité cumulée de pesticides, 3 substances particulièrement présentes, le glyphosate et 2 fongicides, le soufre sous forme de spray et le mancozeb. Pour une augmentation de l'utilisation de pesticides de 2,5 kg par hectare sur 11 ans, le risque de cancer du pancréas est passé de 0,9% à 1,4%, ce qui fait dire à l'auteur principal de cette étude, le docteur Brugel, que l'association entre pesticides et cancer du pancréas est de faible ampleur, mais robuste. Ça ne veut pas dire qu'il y a un lien de cause à effet. Seule l'exposition environnementale a été prise en compte, pas l'alimentation. Et puis, la totalité des 300 pesticides répertoriés en France n'a pas été prise en compte, sans compter les effets cocktails. Mais vous voyez, il y a encore de la recherche à faire, notamment pour essayer d'élucider le mécanisme qui expliquerait ce sur-risque.
Ouais, il faut encore poursuivre cette étude. Merci Sophie Bécherel. Dans le département du Nord, 2 hommes âgés d'une 50aine d'années mis en examen et l'un d'eux écroué après la mort d'un jeune homme à Tourcoing. La semaine dernière, c'était lors d'une soirée chemsex, pratique qui consiste à consommer des produits psychotropes lors d'actes sexuels sur place. Des produits stupéfiants comme du GHB ou du 3MMC ont été retrouvés par la police.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
La prison à vie pour un jeune adolescent de 13 ans. Ça se passe en Chine, où un tribunal a donc condamné ce matin à la perpétuité un garçon de 13 ans, auteur du meurtre de l'un de ses camarades. C'était au mois de mars dernier, l'affaire avait fait grand bruit dans le pays, tant ce meurtre s'est déroulé dans des circonstances sordides. Sébastien Berriot, on vous retrouve en direct de Pékin. Sébastien, la peine prononcée par la justice chinoise est peu courante.
Oui, c'est même l'une des toutes premières fois qu'un tribunal en Chine met en application la loi de 2021 qui abaisse le plancher de la responsabilité pénale, fixé désormais en Chine aujourd'hui à 12 ans pour les crimes les plus cruels. Lors de l'annonce du jugement, le tribunal populaire de Randan, dans la province du Hebei, a insisté sur le caractère particulièrement odieux du meurtre prémédité du jeune Wang, 13 ans, harcelé, tué à coups de pelle par deux de ses camarades d'école avant d'être enterré dans une serre à légumes abandonnée. Le meurtrier s'était ensuite partagé l'argent de la victime sur le réseau social WeChat, ce qui avait permis de les identifier. L'un des jeunes garçons, Zhang, passera donc le reste de sa vie en prison. Le deuxième, lui, a été condamné à une peine de 12 ans. Avec ce fait divers sordide, la Chine, choquée, ouvre le débat sur la délinquance juvénile, phénomène quasiment inexistant dans le pays. Beaucoup de réactions depuis ce matin sur les réseaux sociaux chinois, certaines pour se féliciter du jugement, d'autres pour réclamer davantage de fermeté et la peine de mort pour le jeune meurtrier de 13 ans.
Sébastien Berriot, correspondant d'Inter en Chine. La Chine qui a exprimé ce matin ses profondes condoléances après la mort hier de l'ancien président américain Jimmy Carter, qui s'est éteint à l'âge de 100 ans. Carter, président de 1977 à 1981, qui accepta la reconnaissance diplomatique par les États-Unis de la République populaire de Chine. Pékin ne l'a donc pas oublié. Le 9 janvier sera jour de deuil national aux États-Unis. En Corée du Sud, toutes les victimes du crash de ce week-end n'ont pas encore été identifiées. Seuls 146 sur 179 le sont. Cet avion arrivé de Bangkok en Thaïlande, il s'est écrasé à l'atterrissage sur l'aéroport de Wuhan. Alors il y a l'attente des proches et puis il y a les questions sur les causes. Bonjour Étienne Monin. Julien.
Bonjour.
Il faut rester prudent, le drame s'est déroulé il y a 36 heures, mais comme souvent, il semble être dû à l'enchaînement de plusieurs facteurs.
Et le premier élément de cette chaîne, c'est le choc avec un ou des oiseaux. L'aéroport est proche de la mer et des marécages. Un message d'alerte avait été envoyé par la tour de contrôle avant l'atterrissage. Sur des images, on voit une importante fumée qui sort du réacteur droit de l'appareil après le choc au sol. Le deuxième élément, c'est la défaillance du train d'atterrissage qui n'est pas sorti et des volets qui auraient dû freiner l'appareil sur la piste après avoir touché le sol. Les pilotes ont réussi finalement à poser cet avion, mais il a continué sa course et il a heurté un mur. C'est le troisième élément. En règle générale, il n'y a pas ce type d'obstacle en bout de piste dans les aéroports. Il n'y aurait pas eu non plus de mousse anti-incendie répandue sur le sol. Deux boîtes noires ont été récupérées. L'enquête va sans doute maintenant se pencher sur les moteurs. Ont-ils été endommagés tous les deux par la collision ? Ce qui serait une piste pour expliquer le blocage du train d'atterrissage. Cette enquête devrait aussi étudier la maintenance par la compagnie, les gestes des pilotes et le comportement de l'avion au moment où la réputation du constructeur Boeing est entachée par une série d'incidents.
Merci Étienne Monin pour ces explications. Cela fait maintenant un mois et demi qu'il est détenu en Algérie pour atteinte à l'intégrité de l'État. Les nouvelles de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal sont mauvaises. C'est son comité de soutien qui l'écrit ce matin et qui veut saisir Emmanuel Macron et l'Union européenne. Tout cela alors que le président algérien a qualifié hier l'écrivain d'imposteur. C'était dans un discours officiel, Christian Chesneau.
Dans son discours à la Nation, le président algérien a choisi, sans jamais citer son nom, d'assimiler Boualem Sansal à un apatride, un agent provocateur téléguidé depuis l'étranger.
Et aujourd'hui, on nous envoie un imposteur sans identité, de père inconnu, qui vient dire que la moitié de l'Algérie appartient à un autre État.
Boualem Sansal est incarcéré pour atteinte à la sûreté de l'État et se trouve dans une unité de soins pour traiter son cancer de la prostate, explique Arnaud Benedetti du comité de soutien de l'écrivain.
Il ne bénéficie pas de la protection consulaire comme il devrait en bénéficier puisqu'il a la double nationalité, il faut le rappeler, franco-algérienne. Les autorités algériennes, à ce stade, considèrent qu'il est exclusivement algérien et ne veulent pas que l'on fasse jouer la protection consulaire, ou en tout cas, on pose une fin de non-recevoir. Et il est évident que les conditions de détention qui sont les siennes ne paraissent pas les plus optimales pour traiter la maladie qui est la sienne, vu son âge.
Le comité de soutien qui demande sa libération immédiate a bien conscience que le cas de Boualem Sansal est un dommage collatéral d'une relation bilatérale au plus bas entre Paris et Alger.
Christian Chesneau, là c'est une journaliste italienne qui a été arrêtée, on l'a appris ce week-end, arrêtée à Téhéran. C'était le 19 décembre dernier, la journaliste italienne Cecilia Sala, arrêtée et confirmation aujourd'hui par l'Iran de cette arrestation pour avoir enfreint les lois lors d'un séjour professionnel avec un visa journalistique, nous dit Téhéran ce matin. En Syrie, la population commence à mesurer le temps qu'il va falloir au pays pour tourner la page du dictateur Bachar al-Assad. L'organisation d'élections pourrait prendre 4 ans, a dit hier lors d'une interview à un média saoudien le chef des islamistes radicaux d'HTS, Ahmed al-Shara, celui que l'on nommait par le passé al-Joulani. Notre journaliste Mohamed Erami est à Damas, il est allé à la rencontre des habitants.
3 ans pour écrire une nouvelle constitution et 1 an de plus pour organiser une élection présidentielle, une période que Mohammed, un jeune Syrien dans la vingtaine, juge raisonnable pour réparer ce que Bachar al-Assad a détruit.
Du temps de Bachar, la constitution était modifiée en quelques minutes pour servir le régime, mais là il s'agit d'une constitution d'État que tous doivent suivre, donc c'est normal que ça prenne du temps.
Mais pour Soumaya, une Syrienne dans la trentaine, ce délai est trop long. Elle estime que cela pourrait être fait plus rapidement, surtout compte tenu des besoins urgents de la Syrie de retrouver une stabilité sécuritaire le plus vite possible.
Je suis optimiste quant à la nouvelle situation, mais honnêtement, 3 ans, c'est relativement long, car on pourrait s'appuyer sur la constitution actuelle en modifiant certaines lois. Je pense également que 4 ans pour organiser les élections, c'est une période assez longue.
L'administration syrienne prévoit de dissoudre toutes les factions armées dans le pays et de les intégrer au sein d'un appareil de sécurité et d'une armée nationale unifiée sous la tutelle des ministères syriens de l'Intérieur et de la Défense. À Damas, Mohamed Erami pour France Inter.
Il était le vainqueur sortant du Vendée Globe, le tour du monde à la voile, en solitaire et sans assistance. Pas le mieux placé pour s'imposer dans cette édition, mais encore en course pour un top 10, voire un top 5. C'est maintenant terminé pour le skipper rochelais Yannick Bestaven, victime d'une importante avarie sur son système de barre vendredi. Il a pris ce matin la décision de faire escale à Ushuaia, en Argentine. Tout cela après avoir tout de même réussi à passer le Cap Horn. Il va maintenant réparer son voilier et pourquoi pas rallier les Sable d'Olonne, mais hors course, il a envoyé ce message ce matin.
Bah, malgré tout, quand même, d'arriver au Cap Horn, même si je dois m'arrêter maintenant à Ushuaia pour réparer, et bah, ça a été une sacrée épreuve et j'aurais fait les trois caps. Je dois abandonner le Vendée Globe maintenant pour réparer. C'est comme ça. Tous ces efforts, et c'est pas grave. On va positiver, on est là. On va voir la suite, comment ça se passe, si ce bateau est réparable pour continuer mon chemin. Même si je suis hors course, j'aimerais rallier les Sables d'Olonne en solitaire, mais on verra en fonction du diagnostic de mon équipe technique et de ce qu'on peut faire au niveau réparation.
Voilà le désarroi du skipper rochelais Yannick Bestaven. Nous serons dans quelques minutes, plus que quelques minutes de patience, en ligne avec Violette d'Orange sur son bateau de venir qui nous attend dans le sud du Pacifique pour avoir de ses nouvelles. Là, c'est une étrange polémique qui a saisi le monde des échecs ces derniers jours. C'était précisément vendredi, tournoi qui réunit les grands maîtres à New York, et l'un de ces maîtres, Magnus Carlsen, champion norvégien bien connu des amateurs d'échecs, qui décide de se retirer. Bonjour Vincent Pellegrini.
Bonjour Jérôme.
Car il venait d'être sanctionné pour avoir porté un jean. Alors manifestement, ça n'était pas la tenue adéquate. Il faut d'abord dire, Vincent, que ce Magnus Carlsen, ce n'est pas n'importe qui.
Et oui, à 34 ans, il est considéré comme le meilleur joueur d'échecs de la planète. Certains le comparent aux légendes de la discipline, comme Garry Kasparov. Et c'est avec ce statut que le Norvégien s'est aligné au championnat du monde à New York, et en portant un jean pas conforme au règlement vestimentaire, a estimé la très conservatrice Fédération internationale d'échecs, qui lui a infligé une amende de $200 et lui a intimé l'ordre de se changer. Il a proposé de le faire le lendemain, refus de la Fédération, qui l'a menacé d'une sanction plus lourde, inacceptable pour le champion ulcéré, qui a alors décidé de quitter la compétition. Ces dernières années, la Fédération internationale avait déjà infligé des amendes à des joueurs et joueuses, leur tort à avoir notamment porté au pied des baskets. Mais là, vu le statut de Magnus Carlsen et le tollé provoqué par cette affaire, elle s'est sentie obligée de réagir et la Fédération a annoncé qu'elle assouplissait immédiatement son code vestimentaire, ce qui va permettre à Magnus Carlsen de s'aligner demain en jean ou pas, et pas en short a priori. Hein,
non, dans l'épreuve... il peut venir en short et refaire changer le règlement.
Voilà. Dans l'épreuve de Blitz, c'est une discipline des échecs qu'il a déjà remporté 7 fois dans des championnats du monde.
Voilà, le jean désormais autorisé pour les maîtres des échecs. Merci Vincent Pellegrini. Là, on vous déconseille de faire des descentes à ski en jean. Il vaut mieux un équipement adapté. La question ces dernières années au ski, ça n'est pas tant celle de la tenue, c'est celle de l'enneigement. Et en ces vacances d'hiver, vacances de Noël, les skieurs sont servis du Jura aux Alpes, en passant par le Massif Central. Illustration, tiens, dans le Vercors drômois, où les conditions sont parfaites manifestement pour skier, comme l'a constaté Erwan Chassin.
Au col de Rousset, le parking complet et les voitures qui se garent là où elles le peuvent annoncent la couleur. La station est pleine à craquer. Sur le front de neige, en face de la remontée mécanique où se pressent des dizaines de skieurs, c'est la pause pour Alexandre, venu apprendre le snowboard à l'un de ses deux enfants.
Ça fait vraiment, vraiment du bien, après toutes ces années un peu de neige grise, quoi.
Emmanuel, lui, a chaussé les raquettes.
C'est magnifique, et je ne m'attendais pas à trouver une météo comme ça, quoi. À tel point que je viens d'enlever des couches parce que j'ai déjà trop chaud.
Vous avez que moi aussi.
Vous aussi.
Le coup de chaud, on le retrouve aussi.
On est bon ?
À la location de ski, essayage des chaussures, réglage des fixations. Difficile d'interrompre Nicolas.
Ça va, vous en sortez ?
On est pas mal, on est pas mal. Il y a du monde, c'est surtout pour les clients qui attendent que c'est un peu plus embêtant, mais on est pas mal.
Vous êtes à fond là, franchement.
Exactement. Pourquoi ça se voit pas ? Ah, tu me fais plaisir quand même. Allez-y, s'il vous plaît, madame.
Coup de chaud aussi pour Eric, le patron du restaurant Les Runes, en bas des pistes.
Une pression, s'il te plaît.
On se réjouit, on est extrêmement fatigué. On ne porte pas beaucoup, mais on se réjouit, il n'y a pas de souci. Et puis en général, c'est vrai que la plupart des gens qui viennent sont vraiment sympathiques, ça se passe bien.
On n'avait plus connu de telles conditions dans les stations de ski de la Drôme depuis 2018 au moins, se souvient Eric.
Reportage France Bleu Drôme Ardèche, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo, tiens justement, et pas seulement des cimes, avec Elodie Calac. Et puis à 13h30, Violette d'Orange, la Benjamine du Vendée Globe avec nous, nous l'appelons sur son bateau dans le sud de l'océan Pacifique où elle se trouve actuellement. Elle va prendre le temps de nous raconter son aventure, elle qui nous envoie régulièrement de ses nouvelles par carte postale. Elle est partie depuis 50 jours maintenant. 13h45, le meilleur de notre feuilleton. Aujourd'hui, nous sommes avec un homme qui lutte contre les rixes en Ile-de-France et ailleurs. C'est Adama Camara. Et puis 13h50, c'est la France. Bonjour Mathieu Avanzi.
Bonjour Jérôme.
Notre linguiste spécialiste du français de nos régions. Aujourd'hui, il est question de vœux et de nouvel an.
Bon bout d'an, bon reste, ou plus sobrement, bonne année, bonne santé. Aujourd'hui, on explore les mots et les expressions qui marquent le passage à la nouvelle année dans nos régions.
Et à tout de suite, Mathieu, et puis nous retrouverons également Frédéric Pommier, le meilleur, là encore, Jeanne Masse, qui choisit Daniel Balavoine. À tout de suite.
Passez les fêtes avec France Inter.
De l'humour, de la musique et des surprises pour enchanter vos vacances.
Toute cette semaine, nous allons vous aider à démarrer 2025 en beauté.
Manu Payette.
J'ai décidé d'inviter, de rassembler des gens que je voulais absolument vous présenter. Des amis, des copains avec qui on va passer les fêtes dans la bonne humeur. Un joyeux bordel, un peu organisé quand même.
Studio Payette.
C'est toute cette semaine à 17h.
Bonne fête avec France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Un temps ensoleillé sur le sud-est et en montagne, on en parlait à l'instant, et c'est gris ailleurs.
Et oui, sur la moitié nord, alors jusqu'au nord de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées, les nuages restent bien compacts. On peut espérer quelques éclaircies vers la Bourgogne. Il y a du vent près de la Manche, et puis sur l'ensemble des massifs, le soleil domine. Sur les Vosges, le Morvan, le Jura, les Alpes, le Massif central, les Pyrénées, c'est du soleil. Soleil aussi en vallée du Rhône, vers la Méditerranée. Des nuages bas tout de même vers le Roussillon et la Côte d'Azur. Les températures, elles sont trop basses pour la saison, plus conformes aux moyennes autour de la Méditerranée. Alors 0 à 2 degrés attendus sur le nord-est cet après-midi. Souvent 2 à 5 ailleurs, un peu plus près des côtes de l'Ouest, 4 à 9 degrés et 10 à 14 autour de la Méditerranée. Demain encore du soleil en montagne, davantage de soleil également sur le sud-ouest et puis du gris toujours du nord-ouest aux frontières du nord avec quelques gouttes de bruine, parfois verglaçantes le matin vers la Picardie et Champagne-Ardenne et des gelées encore le matin.
Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Elle est avec nous deux fois par semaine depuis le départ du Vendée Globe le 10 novembre dernier. Fidèle au rendez-vous et vous êtes, je le sais, extrêmement nombreux à la suivre grâce à ce 13-14. Violette d'Orange, la Benjamine de ce Tour du Monde à la voile. 23 ans sur son bateau Devenir nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pendant 15 minutes. Bonjour Violette, comment ça va ?
Bonjour Jérôme. Eh bien ça va très bien. Je me situe dans le Pacifique. Et on a des conditions plutôt sympas parce que c'est assez venté, mais sans trop de mer. Et c'est tout droit en route directe vers le Cap Horn.
Ça veut dire combien de temps avant le Cap Horn ?
Je suis dans à peu près 8 jours.
Une bonne semaine de navigation, donc comment va votre moral ?
Le moral va plutôt bien. J'ai pu, dans ces derniers jours, vu que les conditions étaient un peu plus sympas, j'ai pu vraiment... me reposer, prendre soin de mon bateau et du coup mon moral va plutôt bien.
Vous êtes autour de la 26e place, Violette d'Orange, et il y a pas mal de monde autour de vous sur l'eau, ça s'est regroupé.
Oui, ça s'est complètement regroupé depuis hier. En fait, il y a une dorsale, donc c'est une zone sans vent, qui nous bloque un peu le passage et donc tout le monde bute dans cette zone. Et donc là, on est à peu près une... 5-6 bateaux à dérive à être complètement regroupés. Donc ça fait un deuxième départ pour cette partie du Pacifique.
Alors ça fait 50 jours que vous êtes partie, Violette d'Orange, et vous vous approchez de ce qu'on appelle le point Nemo. C'est le point de l'océan le plus éloigné de toute terre émergée sur la planète Terre, c'est ça ?
Oui, c'est exactement ça. Et c'est un point où on est même plus loin que les astronautes qui sont dans l'ISS. Donc c'est assez particulier.
C'est-à-dire que les astronautes sont plus proches de nous que vous ne l'êtes, vous ?
Exactement, c'est ça.
Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion quand vous savez sur quel endroit du globe vous vous trouvez ?
Il faut éviter d'avoir des problèmes parce que les secours sont très loin de nous. Mais sinon, ça marque un point de passage assez important du parcours et ça veut dire que je suis à la moitié du Pacifique et ça va être plutôt une bonne nouvelle.
On a appris ce matin l'abandon d'Yannick Bestaven, qui est le dernier vainqueur du Vendée Globe, qui a juste pu passer le Cap Horn. Il est devant vous et puis il a dû abandonner suite à une casse, suite à une avarie. C'est quelque chose que vous avez en tête, c'est un risque qu'on a toujours en tête ou bien qu'on garde à distance la possibilité de la casse?
Ah ben c'est un risque que j'ai en tête depuis le début de la course. C'est pour ça que je me dis que chaque jour de passé, c'est un jour de réussite, un jour où je suis allée un petit peu plus loin sur le parcours, et je le vois vraiment comme ça parce que la casse peut arriver à tout moment. Et c'est quelque chose que je garde en tête pour ma stratégie, c'est-à-dire de jouer avec les concurrents, mais de toujours faire attention et de rester vigilant pour éviter ça.
Et vous nous l'avez dit régulièrement depuis 50 jours, que souvent vous faisiez le choix de la sécurité pour amener le bateau à bon port au Sable d'Olonne. Dans ces notes vocales que vous nous envoyez, Violette d'Orange, deux fois par semaine et qui sont très appréciées par les auditeurs, quand on leur a proposé ce matin de vous envoyer des messages, ils sont très nombreux à l'avoir fait, je vais vous en lire dans quelques minutes. Je voudrais d'abord qu'on accueille Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel.
Oui, bonjour, bonjour.
Merci
bonjour Violette.
Merci d'être avec nous. D'où est-ce que vous nous appelez Jean-Michel ?
Je vous appelle de Toulouse.
De Toulouse, vous suivez le tour du monde de Violette d'Orange, peut-être pas
bien
à pas, jour
bien
après
sûr,
jour.
Sûr, grâce à vous, ouais, grâce à vous, grâce à France Inter, oui, bien sûr. Et puis Violette, la ville de Toulouse, la ville de Violette, donc un prénom comme ça, on peut ne peut que la suivre.
Il y a un petit clin d'œil, effectivement. Elle vous écoute de l'autre côté de la planète.
D'accord. Eh bien, je voulais lui dire, on n'a pas beaucoup de plaisir, j'imagine, à part le plaisir gustatif, là, comme ce matin, j'entendais qu'elle mangeait du canard, du parmentier de canard, et je me dis que moi, c'est un plat que j'adore faire. Je voulais, nous, on a mangé à Noël en famille ce parmentier de canard avec des patates douces, et il y avait deux plats, et on avait des pommes de terre normales. Et je voulais me rapprocher d'elle, justement, parce que par ce biais, de lui dire qu'on avait des pensées pour elle, et ce courage de vraiment se dépassionner, des gens comme ça. Moi, ce matin, je me levais, j'avais repris ce matin, et je me suis dit, quel courage. Moi, il faisait quelques degrés de moins ce matin. Je me suis dit, mais c'est bien de pouvoir, d'entendre des gens qui nous mettent comme ça la pêche et nous donnent ce courage pour pouvoir aller travailler en se disant qu'elle vit des situations si extrêmes et tout. Et que moi, à côté, merci Violette. C'est super.
Merci Jean-Michel. Violette d'Orange, c'était le parmentier de canard, votre repas de Noël.
Oui, exactement. Bah, merci beaucoup pour ce message. Ça me touche beaucoup. Et ici aussi, il y a quelques degrés en moins. C'est le même parallèle qu'en France, parce qu'ici aussi, il fait froid, ça pique les doigts.
Il était bon, ce parmentier ?
Oh oui, ça va. c'est un parmentier apertisé, donc ça veut dire que c'est quand même la nourriture qui est assez normale. Elle n'est pas lyophilisée.
Mais ça fait du bien d'avoir des petits bonheurs comme celui-là dans un tel tour du monde, ou bien finalement, des petits bonheurs, il y en a tous les jours, il y en a beaucoup, et beaucoup plus qu'on l'imagine, peut-être nous.
Bah, ça dépend vraiment des jours. Alors des fois, il y a des petits bonheurs tout simples que je trouve dans la nourriture, une barrière ou un coucher du soleil. Je dirais que ça dépend vraiment de chaque jour. Et puis des fois, il y a des journées où c'est très dur. Donc ça dépend. Et je garde le lien avec mes proches que j'ai régulièrement au téléphone. J'essaye une fois par semaine mes parents, et j'envoie des petits messages à ma famille, à mes proches, mais voilà.
Est-ce qu'il y a un moment où vous avez dit « mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je suis partie dans cette galère ?»
Pour l'instant, je ne me suis jamais dit ça. J'ai eu des moments très durs, mais je savais en partant sur ce tour du monde qu'il allait y avoir des difficultés, des moments de casse, mais je n'ai jamais douté du fait que je suis là parce que c'est mon rêve, parce que j'ai envie d'arriver autour de ce tour du monde, et voilà. Non, je ne doute pas. Parfois, oui, c'est difficile, mais je ne doute pas.
Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là, quand c'est dur ?
Souvent, j'essaye de me raccrocher aux petites attentions que m'ont préparé mes proches avant de partir. J'ai des photos, des petits messages, des vidéos, des choses comme ça. Ça me fait beaucoup de bien si vraiment je me sens angoissée. Et puis sinon, c'est tout simplement d'écouter de la musique ou alors de faire de la sophrologie. Ça marche beaucoup, faire tout ce que j'ai pu travailler en préparation mentale avant de partir.
Qu'est-ce que vous écoutez comme musique en ce moment ?
J'écoute plein de musiques différentes. Mais c'est vrai que moi, je suis une grande fan de Billie Eilish. Et du coup, j'écoute beaucoup de ses musiques.
On a donc, depuis ce matin, on a entendu Jean-Michel, mais on a eu beaucoup de messages. Je vous en cite quelques-uns, il y en a trop pour que je les cite tous. Violette d'Orange, Botero, bravo ma chérie, tu es formidable. Toutes les grand-mères avec toi, on t'embrasse. Marie-Christine, merci pour votre enthousiasme, pour votre énergie, votre joie si contagieuse. Corinne, tes interventions sur France Inter me ravissent et me donnent le moral, va au bout de tes rêves. Donc on a même des auditrices qui vous tutoient. Vous avez, je suppose, vous recevez aussi beaucoup de messages à bord. Est-ce que vous prenez le temps de les lire et comment est-ce que vous les recevez ?
Déjà, un grand merci pour tous ces messages. À bord de mon bateau, je n'ai pas les réseaux sociaux et je ne reçois pas tous les messages parce que, comme vous avez pu le voir, mon système satellitaire n'est pas très, très opérationnel pour avoir Internet. Mais par contre, je sais qu'il y a un super engouement à terre. Mon équipe me fait des retours dessus et je sais qu'il y a énormément de soutien. Et tous les jours, ça me motive à tout donner pour cette course. Donc, c'est génial. Merci beaucoup.
Vous êtes devenue l'une des sportives françaises les plus suivies sur les réseaux sociaux. 700 000 abonnés, c'est quelque chose qui vous dépasse ? Vous en prenez un peu la mesure ou pas du tout ?
Je ne m'attendais pas à autant. Et je pense que mon retour à terre, ça va être aussi... ça va changer beaucoup de choses, peut-être. Ça va être un peu un chamboulement. Donc voilà, je vais essayer bien atterrir quand je vais arriver sur Terre.
Ça veut dire que vous pensez déjà au retour à terre ?
Oui, un petit peu. Bah, c'est pas très bien de faire ça parce qu'il reste encore beaucoup, beaucoup de jours en mer. Donc, j'essaye d'y penser le moins possible. Mais parfois, oui, je pense à tout ce que je vais faire l'année prochaine, mes projets, tout ça. Donc, ça, c'est un moyen de m'évader aussi un petit peu.
Est-ce que le temps est long à bord ? Est-ce qu'on s'ennuie parfois ?
Parfois, oui, ça arrive de m'ennuyer. Mais si je m'ennuie, ça veut dire que j'ai pas trop de problèmes à bord de mon bateau, que je suis pas en train de faire des réparations ou que les conditions sont plutôt cool, donc ça veut dire que c'est plutôt bon signe.
On a Régis en ligne qui nous a appelé. Bonjour Régis.
Bonjour France Inter.
Vous nous appelez d'où Régis ?
D'Angers.
Vous suivez, même question pour Jean-Michel tout à l'heure, le tour du monde de Violette, avec attention.
Oui, avec attention, avec mon épouse qui est fan de Violette.
Vous l'avez découverte à l'occasion de ce Vendée Globe ?
Oui, tout à fait, oui. Oui. Et on aime beaucoup ce qu'elle poste, ses images, ses vidéos. On trouve beaucoup de fraîcheur et de spontanéité.
Vous aviez une question, je crois, Régis.
Oui, c'est ça. Je voulais savoir, Violette, quelles sont vos découvertes les plus importantes depuis votre départ ? Des découvertes sur vous-même et puis sur la mer, sur la voile.
Merci Régis pour cette question. Violette d'Orange, est-ce que vous nous avez bien entendu ?
Oui, bonjour Régis. C'est une super question. En fait, déjà, j'ai l'impression d'avoir énormément voyagé. Les mers sont très différentes, en fait, quand on passe, par exemple, le Poteau Noir, l'Atlantique Sud, où là, les conditions sont plutôt chouettes, il fait chaud Et puis ensuite les mers du Sud, où là ça devient vraiment la guerre, en tout cas l'océan Indien pour nous cette année, c'était la guerre des vagues infernales comme je n'ai jamais vu dans ma vie. Donc les paysages, j'ai découvert ça, c'est ces paysages très très changeants et puis je pense que je n'ai pas fini d'en découvrir, je pense que le Cap Horn ça va être quelque chose aussi. Et puis après il y a par exemple les animaux que je vois, les albatros, tous les petits oiseaux qui me suivent tous les jours. Ça c'est assez fou et après j'ai appris énormément sur moi, je pense que ça va me permettre d'énormément grandir toute cette aventure et j'ai pris en expérience, c'est assez fou, je comprends beaucoup mieux mon bateau, comment bien naviguer, j'ai appris à réparer plein de choses, enfin, j'ai gagné énormément en expérience je pense.
Vous parlez de votre bateau, Violette, c'est l'ancien bateau de Jean Le Cam, qui navigue comme vous avec un bateau à dérive. Hein. Vous n'avez pas de foil, donc vous allez moins vite forcément que les premiers qui ont des foils, bateau à dérive. Est-ce que vous avez pu échanger avec Jean depuis le début de ce Tour du Monde, à distance ?
Pas trop, non. Pour être tout à fait honnête, je pense qu'on est assez pudiques et on ne s'est pas trop envoyé de message. Mais moi, en tout cas, je le suis et je vois qu'il fait une course magnifique. Là, son dernier bateau à dérive qui est sorti cette année est juste incroyable. Il a des vitesses, il est toujours un nœud, deux nœuds plus vite que la plupart des bateaux à dérive. Donc, il fait une course incroyable.
On entend votre sourire, Régis l'a souligné à l'instant, c'est ce qui nous frappe tous. Est-ce que c'est quelque chose, j'allais dire, que vous travaillez, c'est-à-dire qu'avant de nous envoyer des messages, vous dites « allez, il faut que je sois un peu souriante » ou bien finalement vous êtes toujours comme ça, vous arrivez toujours à sortir le positif quelle que soit la situation?
Bah, je pense que ça c'est un des apprentissages justement de cette course, c'est que ça rend heureux, je pense, tout simplement. En fait, on passe par des phases de joie immense, des phases de parfois de difficultés immenses aussi. Et donc, je vois maintenant le plaisir dans plein de petites choses de la vie. Et à bord de mon bateau, je me sens super bien, je me sens heureuse. Donc, c'est pas un faux sourire, c'est vraiment que je suis heureuse sur mon bateau et je trouve que je vis une aventure de dingue. Et c'est incroyable.
Et votre bonheur rebondit à des milliers de kilomètres, Violette d'Orange. Je vous le dis parce qu'on reçoit vraiment encore là des messages. Fabrice, petit message pour Violette que je suis tous les jours sur les réseaux sociaux. Bravo et respect, tu nous fais voyager et découvrir que l'aventure existe encore dans un monde aseptisé, nous dit-il. Est-ce que vous gardez le lien avec le monde tout de même, Violette d'Orange? Est-ce que vous suivez l'actualité, tout simplement, malgré ce réseau satellitaire un peu difficile? C'est ce que vous venez de nous dire.
Pas tellement. Je suis juste au courant qu'il y a eu un peu des histoires au niveau gouvernement, que c'est un petit peu le bazar. Mais après, sinon, non, je connais pas tellement l'actualité.
Vous savez qu'il y a un nouveau Premier ministre? Vous savez comment il s'appelle?
Non, je sais pas du tout.
Bon, c'est François Bayrou qui est Premier ministre depuis quelques jours. Voilà, je vous l'apprends.
Merci pour l'information.
Mais vous aurez tout le temps de vous pencher sur cette situation au retour. Merci infiniment, Violette, de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps précieux aujourd'hui du Pacifique Sud où vous naviguez donc 8 jours à peu près pour le Cap Horn. Et puis ensuite, le retour peut-être fin janvier au Sable d'Olonne, on peut dire ça?
Il me reste à peu près 40 jours, je dirais, jusqu'à l'arrivée en France.
40 jours, donc là, ce sera un petit peu après, ce serait plutôt début février. Si je compte bien. Merci infiniment Violette et je vous donne rendez-vous jeudi hein, pour la traditionnelle carte postale du jeudi qu'on attend tous avec beaucoup beaucoup d'impatience. Merci encore, à bientôt.
Merci beaucoup, au revoir, à bientôt.
Au revoir. Et à 13h46, le retour sur Terre pour une semaine dans leur vie. Notre feuilleton à la rencontre pendant ces fêtes de ces personnalités qui nous ont marqués pendant cette année dans ce 13-14 et dont les portraits font toujours écho à l'actualité. Vous savez qu'il y a quelques jours à Paris, une rixe entre adolescents a coûté la vie à un jeune de 16 ans. Eh bien, il y a quelques mois, nous avions passé une semaine avec Adama Camara, fondateur de l'association SADA. SADA, c'était le nom du petit frère d'Adama, tué en 2011 dans une bagarre à Garges-lès-Gonesse dans le département du Val d'Oise. Pendant 3 ans, Adama n'a eu qu'une idée en tête, punir les agresseurs de son frère. Il va finalement leur tirer dessus avec une arme à feu, les blesser et il va être envoyé en prison pendant 5 ans et demi. Et en retrouvant la liberté, il décide d'aller à la rencontre des jeunes de région parisienne pour dialoguer avec eux et mettre fin aux rixes. Lise Roseveille l'a accompagné lors d'un atelier autour du rap et de l'écriture.
Vas-y, fais-moi un petit truc là. Lis-moi ton texte. Non, tu le lis, tu le rappes pas, tu le lis. Donne, je vais lire. 2 mecs bressons sur la... Non, mais... Ça se voit qu'on n'a pas bossé encore. Oh là là. Couteau caché sous le manteau. Fouille-le, Castel. Fouille-le. T'as essayé de bébard. Je te fais pas de fleurs. J'ai vu des mannes par terre qui se mangeaient des pointus. Il n'y a que de la violence dans ton texte. Pourquoi tant de violence? T'as une tête d'ange, tu fais que de la violence. Faire ton texte.
Moi, je m'appelle Ryan, j'ai 18 ans ce soir.
Alors vas-y, dis-moi, c'est sur quoi ton texte, là, que t'as entre les mains?
C'est sur un peu tout, hein, ce que je vis, ce que je vois, ce que... Voilà.
Tu peux me lire quelques phrases?
Non, parce qu'il y a des phrases un peu, je sais pas si votre chaîne va accepter.
Mais pourquoi?
Parce que y a des gros mots, tout ça.
C'est pas grave, c'est ton texte.
J'ai vu des mains par terre qui se mangeaient des pointus, posées sur le hazi, attaque de baqueux. Une petite phrase comme ça.
Ça fait référence à quoi?
J'ai vu des gens par terre qui se faisaient frapper. Et posé sur un terrain, sur un point de deal, et j'ai vu des baqueux. Vous savez c'est quoi les baqueux?
Les policiers?
Ouais, en civil.
Toi, c'est ton quotidien, la violence dans les quartiers, ce dont Adama parlait au début de l'atelier?
Ouais, un peu quand même. Hein. On vit ça quand même. Pas tous les jours, mais il y a des bagarres entre quartiers. dans lequel mon quartier il est mêlé. Et voilà.
Ça fait longtemps que j'ai demandé à lui. Et vous avez dit ce que je leur ai fait au quartier ? Mon petit frère, non ? Allez, au revoir, merci. Jamais, je t'ai doublé combien de fois ?
Toi, t'emportes des couteaux ou tu connais des potes qui portent des couteaux ? Parce que je vois que dans tes textes, tu parles de ça. D'armes et tout.
Je connais des potes à moi qui portent des couteaux. Maintenant, c'est plus choquant. Hein. Ils se défendent avec ça.
T'as des gens de ton entourage, par exemple, qui ont déjà été blessés ou ce genre de choses ?
Oui, bien sûr. Ils s'étaient fait attraper, ils se sont fait frapper, tout ça.
Ça t'a choqué ?
Non, rien de grave.
Mais c'est quand même pas normal, non, des affrontements comme ça entre quartiers. T'en penses quoi, toi ?
Faut changer tout ça.
Pourquoi des fois j'ai l'impression que le péché m'éloigne de toi ? Non, je vais plus toucher à ça. Le péché, je vais plus toucher à ça.
L'objectif après, c'est de travailler sur leur texte, c'est ça ?
Ah oui, bah bien sûr, travailler sur leur texte, déconstruire l'idée qu'on se fait, parce que quand on parle de la rue, j'ai l'impression que dans la rue, il n'y a que ça en fait. Il y a des belles choses dans la rue, il y a des personnes qui se lèvent tôt qui vont au travail, il y a des personnes qui se lèvent tôt qui vont à l'école, il y a des beaux modèles de réussite, mais on n'en parle pas. Quoi, l'objectif, c'est de travailler sur des textes, sur des thèmes, de dire que la musique, c'est pas que des insultes, c'est pas que de la violence. Qu'est-ce qu'on peut faire passer comme message au-delà de se dire que on est des vendeurs, on est des gars où on tire, ou on est des gars où on met des coups de couteau, non. Il faut vraiment déconstruire. Mais moi, ça ne m'étonne pas. Hein. Je le fais partout, ça fait bientôt 4 ans. J'ai toujours ça au début. Donc, je ne suis pas étonné ni choqué. Moi, je le fais même en détention. Je fais un avant-après. Donc, quand je fais écouter les sons en détention au début, je fais écouter le premier son qu'ils ont enregistré. Donc, forcément, tout le monde me regarde en disant « Il est bizarre, cet intervenant, quand même. » Et après, je leur dis ça, c'était avant de travailler. Après le boulot, après, ils me disent « Ah, OK, on a compris. »
À la rencontre d'Adama Camara par Lise Roosevelt, réalisé par Stéphane Ronxin, feuilleton en 5 épisodes que vous retrouvez, que vous réécoutez sur l'application Radio France.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France à 13h50 le lundi avec notre linguiste spécialiste du français de nos régions, Mathieu Avanzi. Mathieu, à la veille du passage à la nouvelle année, nous révisons ensemble aujourd'hui les expressions liées aux vœux. Elles sont nombreuses.
Exactement, Jérôme. Le nouvel an, c'est ce moment charnière entre deux années où les vœux et les traditions prennent tout leur sens. Mais ce qui est fascinant, c'est que même pour des souhaits aussi universels que ceux de la nouvelle année, chaque région dispose de ses propres formules. Prenons l'expression la plus courante. Bonne année, bonne santé. Elle paraît simple comme ça, mais elle illustre très bien l'importance culturelle qu'on accorde à la santé. Surtout dans un contexte où le souvenir des récentes épidémies reste encore très présent dans les esprits. Cette formule, qui se répète presque mécaniquement du 1er janvier au 31, témoigne de notre attachement collectif à des valeurs de protection et de bien-être. Mais il faut aussi souligner que l'expression de ses vœux n'est pas uniforme. En Bretagne, on entend parfois bonne année, bonne santé et prospérité, tandis qu'en Corse, on préfère dire pace e salute a tutti per tutto l'anno. Paix et santé à tous pour toute l'année.
On retrouve donc, Mathieu, ses vœux sous différentes formes selon nos régions.
Tout à fait, Jérôme. Et là, on plonge dans un véritable trésor de régionalisme. En Provence, par exemple, on se souhaite un bon boudin qu'on fait suivre de « à l'âne Kevin », ce qui signifie littéralement, vous l'aurez compris, « bonne fin d'année et à l'année prochaine ». En Provence, toujours, certains vont même encore plus loin et complètent la formule avec la phrase « et c'est sian pas mai que si gen pas mens », qu'on pourrait traduire en français par « et si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins ». C'est une phrase qui est pleine de sagesse, car elle fait référence au cycle de la vie entre naissance et décès, et à mon sens, elle reflète bien l'esprit provençal qui oscille entre optimisme et résilience. Changement de cap et direction les Hauts-de-France, plus précisément rendons-nous dans le Pas-de-Calais, au pays des ch'tis. Là-bas, une autre formule qui résulte d'un mélange de picard et de français attire l'attention. Bon reste. Cette expression, qui pourrait sembler étrange au premier abord, invite à considérer les derniers jours de l'année comme un reste à savourer pleinement. Une manière originale de rappeler qu'il ne s'agit pas de jours ordinaires, mais bien d'instants exceptionnels qu'il faut célébrer, car ils ne reviendront jamais. C'est une belle invitation à vivre chaque instant avec intensité, un message intemporel en cette période de fête.
Et c'est aussi une période de l'année, Mathieu, où se pose la fameuse question du nombre de bises.
2, 3, voire 4 bis, tout dépend d'où vous venez. Dans la majorité des régions de France, 2 bis suffisent pour se souhaiter une bonne année. En Bretagne, il n'est pas rare de se contenter d'une seule. Mais attention, si vous êtes dans les Pays de la Loire, là-bas, la norme peut grimper jusqu'à 4 bis. Enfin, si vous avez prévu de réveillonner dans la région de Montpellier, la coutume exige qu'on fasse 3 bis. Une véritable gymnastique sociale pour débuter l'année en beauté. En fin de compte, les vœux, qu'ils soient verbaux ou gestuels, montrent que le passage à la nouvelle année reste un moment riche en diversité. Alors Jérôme, je vous souhaite à vous tous et à tous nos auditeurs, bonne année, bonne santé et autant de bis que vous le voudrez.
Avec donc un peu d'avance, merci à vous Mathieu Avanzi. Et on vous retrouve en livre également Mathieu, ça s'appelle « Le fabuleux destin des mots » de 1960. À nos jours, 60 années de langue française et c'est aux éditions Le Robert. De C'est la France. Ah, c'est une chanson. Frédéric Pommier nous propose toute cette semaine une semaine spéciale années 80. Et on commence aujourd'hui avec la chanteuse Jeanne Masse qui choisit un titre sorti en 1985. Tous les cris, les SOS, Daniel Balavoine bien sûr. Un artiste qu'elle a découvert alors qu'elle venait elle-même de sortir son premier succès.
J'habitais en Italie et j'ai vu juste un single d'un gars que je connaissais pas et qui chantait « Dieu que l'amour est triste ». Je me suis dit « Tiens, mais comment est-ce qu'on peut chanter une chose pareille ?» Moi qui commençais déjà à écrire des textes. Et j'ai écouté sa chanson, j'ai vu tellement de vérité, tellement de désespoir. Peut-être que je m'y suis vue aussi, mais je me suis dit « Mais moi, je veux rencontrer cet homme qui écrit des choses pareilles ». Et j'ai demandé à le rencontrer, puisque j'avais eu la chance d'avoir un tube avec toute première fois et que ma maison de disques projetait donc un nouvel album. Ils m'ont dit « Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu as des idées ?» J'ai dit « Écoutez, je voudrais travailler avec un gars qui s'appelle Daniel Balavoine. » Ils m'ont dit « Ah oh oui, oui, non, c'est une grande star. » Donc ils l'ont contacté et Daniel m'a rappelé.
Comme un fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seul. Je dessine à l'encre vide un désert et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses sans comprendre la détresse des mots que j'envoie.
Ça reste un grand souvenir, cette rencontre.
Oh ouais. Il avait une aura qui était incroyable. Moi, quand il est arrivé dans le studio, j'étais assise, j'attendais. Et je pense qu'à ce moment-là, il y aurait eu une sorte de tempête. C'était comme ça. Il est arrivé, j'ai été bouleversée, j'ai senti tout mon corps. Vous voyez, quand il y a un grand coup de vent comme ça qui vous... Ouh ! Mais c'est quoi ? C'est qui ? Il est arrivé, il était pressé, il m'a dit « Je reviens et tout, je vais poser les trucs dans le studio. » Il m'a totalement scotchée, c'est-à-dire que j'étais... Ah oui ? C'était époustouflant. Et puis il s'est assis au piano dans ce grand studio et là il a commencé à chanter tous les cris, les SOS. Et je l'ai regardé, je lui ai dit « Tu me donnes cette chanson ?» Il m'a dit « Non, je la garde. » J'ai dit « Bon, d'accord. » Et je voulais la mettre dans mon album. Et malheureusement, il est parti et c'est pas que j'ai récupéré cette chanson, c'est que je sentais que quelque part il me l'avait chantée pour que je continue de la faire vivre. Voilà, ça c'est l'histoire de tous les cris, les SOS.
Chanter un chanteur mort, ça le rend vivant de nouveau ?
Je ne crois pas en la mort, donc il n'est pas mort. Et on se retrouve très souvent dans le monde astral, parce qu'en fait, la conscience reste. Il n'y a que le corps qui s'en va. On va en chercher un autre et on recommence d'autres expériences. Voilà. Donc je ne chante pas un mort, je chante Daniel Balavoine, qui est toujours là. Mais bon, là on rentre dans un autre truc de... très spirituel. On dirait, elle est vraiment timbrée cette Jeanne Masse, ça s'arrange pas en vieillissant, mais ça va très bien.
Tous les cris, les SOS partent dans les airs.
J'ai eu pour lui une admiration totalement infinie. Il était en grand ce que moi j'étais en petit. C'est comme ça que je le vois.
SOS, Daniel Balavoine. C'était donc le choix de Jeanne Masse avec Frédéric Pommier. Jeanne Masse qui sera d'ailleurs en concert du 28 février au 2 mars. Ce sera au Trianon à Paris. Mathieu Vidard dans La Terre au Carré dans quelques minutes avec le photographe naturaliste Vincent Munier.